France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et l'on parle de robots ce matin, Claude.
Et de l'usine de demain qui, par le numérique, devrait libérer l'homme, jadis asservi aux tâches automatiques. Mais cette libération n'est peut-être qu'un slogan. Et l'usine nouvelle publie un dossier dérangeant. Non, la classe ouvrière n'ira pas forcément au paradis en quittant le travail à la chaîne pour les écrans de contrôle de ces robots qui remplacent les copains. On est aux manettes, plus loin de ce que l'on fabrique, et l'on rencontre la solitude dans l'atelier dépeuplé et aussi l'addiction. Dans une usine Valeo qui tourne à 9 ouvriers au lieu de 30 jadis, les opérateurs portent des smartphones connectés aux machines, y compris pendant leur pause. On ne déconnecte jamais. Oui, mais l'usine est plus propre. Chez Septodon, fabricant d'anesthésiens dentaires, Olga ne s'arrache plus les yeux. En scrutant à la loupe les cartouches pour chercher leurs défauts, elle clique sur un écran pour vérifier leur qualité. Elle est heureuse, elle est formée. Et le dossier d'équilibre de l'usine nouvelle vient à point dans nos débats numériques. Tandis que l'humanité dénonce les esclaves du numérique, Libération applaudit en une la médecine en ligne et les succès de Doctolib, cette plateforme où d'un clic vous prenez rendez-vous chez le toubib et vous pouvez même avoir désormais une consultation en ligne. A contrario, à Toulouse, me dit la Dépêche, une juge en référé a donné raison à une usagère qui refusait qu'on installe chez elle le polémique compteur connecté Linky. L'avenir hésite, le vieux monde parfois à l'agonie coriace. La Marseillaise, journal provençal de gauche, ouvre sur les salariés de la centrale thermique de Gardanne, en grève depuis décembre, voués à disparaître, mais ils jurent qu'ils peuvent, avec le charbon, produire de l'énergie propre qui les entend. En Bretagne, je vous invite à passer du temps, beaucoup de temps, avec Serge, patron du Cap Cause, un chalutier dont l'arrière s'enfonce dans l'eau par le poids des filets et qui sort pourtant chercher la langouste qui est moins abondante. Jadis, on connaissait chez les vieux pêcheurs les terriers et les caches de l'animal. Maintenant, n'importe quel gamin télécharge les cartes de la pêche sur sa clé USB. Serge bougonne, on nettoie à grandes eaux le bateau souillé. C'est dans Zadig, nouvelle revue dont vous avez parlé, Nicolas, qui tous les trois mois va nous raconter la France et uniquement nous. Elle est conçue par l'équipe du 1. Dans sa richesse, j'ai choisi ce doux requiem de vrais travailleurs de la mer.
Et un autre travailleur, Claude, fait la une de l'équipe.
Et il nous dit ceci. C'est dans le succès que l'on peut faire les plus grosses conneries. Et nous voilà avertis par Didier Deschamps, que le Point interroge aussi. Et je soupçonne chez le Point une part de vice qui oppose le solide Didier, un vrai chef, à nos gouvernants légers. La couverture du Point est méchante. Les stagiaires, avec photo évidemment de Monsieur Castaner. Cette expression stagiaire avait déjà été opposée à François Hollande dans un livre excellent, Le stage est fini, de la journaliste Françoise Fressoz. Voilà maintenant Emmanuel Macron jugé inadéquat par un journal, Le Point, qui pourtant ne lui était pas hostile et qui le fait disséquer, classique de l'assassinat politique, par un psy, Michel Schneider, pour qui ce président skieur cède à son désir. Vous lirez aussi un article terrible sur les process de recrutement du futur DIRCOM de l'Élysée, supervisé et organisé par Jean-Marc Dumontet, propriétaire de théâtre et organisateur des Molières, qui auditionne des grands noms de la communication, qui ont tout raconté. C'est un signe. Et les méchancetés du Point soulignent d'autant plus le grotesque, ou disons l'inutilité, de cette photo à la une de Paris Match de notre président face aux violences, l'œil méchant et la main crispée, un air de tueur trop bien composé. Et à nouveau, le football vient offrir une terrible comparaison, car il y a dans Match de vraies gagnantes, nos footballeuses dont la Coupe du Monde aura lieu bientôt. Elles jouent de joie et sans en rajouter. Une autre femme, à Perpignan, un homme est mort jeune et la douleur s'aggravait, me dit l'Indépendant, quand les fleurs de sa tombe étaient sans cesse volées. Alors sa vieille tata, endeuillée, a planqué au cimetière et a coincé la voleuse, une sexagénaire qui roulait en Mercedes et dont la maison était décorée des fleurs, des plantes, mais aussi des statues d'angelots qu'elle volait aux morts. C'est la tata que je célèbre avec l'Indépendant, une vraie vengeresse.
Des morts en Amérique, pour finir.
Oui, commence à monter, vous le verrez sur les réseaux sociaux, une affaire terrifiante des États-Unis. Elle vient de Ferguson, cette ville où un jeune noir avait été abattu par un policier. Le mouvement Black Lives Matter était né de ce drame. Mais les animateurs de ce mouvement meurent, les uns après les autres, dans d'étranges accidents qui ressemblent, mis bout à bout, à des assassinats. C'est ce que raconte, en ligne, une longue enquête de l'agence Associated Press. D'Amérique encore, nous vient un scandale et ce film que M6 diffusera, où d'anciens petits garçons accusent Michael Jackson de les avoir violés. Mais au-delà de cette histoire, on trouve dans l'Obs une interrogation et de la neuroscience. Depuis des années, un chercheur français, Serge Stoleru, étudie le fonctionnement du cerveau des pédophiles. Et il a mis en évidence le dysfonctionnement d'une petite région du cerveau, une zone appelée aire de Brodmann 20, lieu de l'inhibition. L'inhibition, quand le cerveau bride nos désirs et nos pulsions pour nous permettre la vie en société. elle est, chez les pédophiles, désactivée. C'est passionnant comme la science. J'en termine. Je lis dans Le Monde que pour récupérer les eaux et les fonds de la baie de New York, on va y introduire des milliards d'huîtres. Oui, des milliards, car elle nettoie les eaux. Quel parfum iodé pour en finir aujourd'hui.